Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
Les mafieux sont excommuniés. L'anathème du pape François contre la 'Ndrangheta et toutes les mafias fait la une. Nous reviendrons sur ce moment fort de sa visite dimanche en Calabre. Autre condamnation du pape ce dimanche contre la torture, cette fois à 4 jours de la Journée internationale des Nations Unies. Pour le soutien aux victimes de la torture, nous évoquerons la nuit des veilleurs à l'initiative de l'ACAT. Les chrétiens de Malaisie ne pourront pas utiliser le mot Allah pour désigner Dieu, c'est à présent définitif. Ainsi en a décidé la haute cour de justice du pays. Les secrétaires généraux des conférences épiscopales d'Europe se sont réunis à Strasbourg. Durant 3 jours, notre invité sera le père Michel Remery, vice-secrétaire général du CCE. Il nous parlera de l'intérêt des responsables du Conseil de l'Europe pour l'action de l'Église. Ne pas juger les autres sous peine d'être jugé soi-même, voilà l'enseignement du pape François délivré lors de son homélie ce lundi matin en la chapelle Sainte-Marthe au Vatican. Ceux qui ont choisi un chemin de mal comme les mafieux ne sont pas en communion avec Dieu mais sont excommuniés. Voilà ce qu'a déclaré le pape François ce dimanche. Le pontife s'exprimait lors de la messe qu'il célébrait à Sibari au terme de son voyage en Calabre. Dans une condamnation très dure du crime organisé, le pape a assuré que la 'Ndrangheta est l'adoration du mal et la dépréciation du bien commun. Il demandait que ce mal soit disputé et éloigné. Un peu plus tôt dans la journée de dimanche, le pape s'est rendu dans la prison de Castrovillari où il a notamment rencontré des membres de la famille du petit Coco Campolongo, tué avec son grand-père par la mafia en janvier dernier. On se souvient qu'en mars, lors d'une émouvante veillée de prière en présence de plusieurs centaines de proches de victimes du crime organisé, le pape avait demandé aux mafieux d'arrêter de faire du mal et de se convertir. Leur dire à présent qu'ils sont excommuniés, c'est un pas de plus, évident, pour déclencher peut-être des examens de conscience chez quelques-uns. Manuela Fidji.
Le droit canonique, c'est-à-dire le droit de l'Église, prévoit des peines visant à ramener les personnes à une vie plus évangélique et parfois à protéger la communauté. L'excommunication fait partie de ces peines. Être excommunié, c'est être mis en quelque sorte en quarantaine. L'excommunié ne peut plus participer à la vie sacramentelle de l'Église. Il n'est pas seulement privé de l'Eucharistie lors de la messe, mais il est également coupé de la communion de l'Église à la suite d'une faute très grave spécifiée par le droit de l'Église. Rares sont aujourd'hui les excommunications car l'Église fait une large par la miséricorde. Cela dit, il y a des circonstances qui peuvent entraîner l'excommunication. Parmi elles, l'hérésie, le schisme, la consécration d'un évêque sans le mandat du pape, la profanation de l'Eucharistie, la violation du secret de la confession notamment. Non prononcée au terme d'une procédure canonique, l'excommunication des mafieux calabrais par le pape n'a pas en elle-même de valeur légale. Mais elle stigmatise des comportements et rappelle que ceux qui s'adonnent au meurtre et à la terreur s'excluent elles-mêmes de la communauté ecclésiale et ne peuvent plus recevoir les sacrements de l'Église. Reste à savoir concrètement comment les prêtres de paroisse pourront prendre position et agir, car sur le terrain, au quotidien, rien n'est simple. Certains prêtres l'ont payé de leur vie d'avoir lutté contre la mafia. Souvenez-vous de l'assassinat du père Pino Pulisi à Palerme en septembre 1993, le jour de son anniversaire. Il n'est pas le seul. Mais il est vrai que tous n'ont pas ou pas eu ce courage, et le silence des prêtres, avec la peur qui le tenaille, sonne comme un exemple négatif pour leurs paroissiens. Beaucoup a pu être écrit sur la complexité des relations entre Église et mafia, et de la porosité entre ces deux mondes. Le pape François est venu relancer l'anathème lancé par Jean-Paul II à Agrigente et dans la vallée des Temples en mai 1993. Convertissez-vous, un jour le jugement de Dieu viendra. Et les mots de Benoît XVI à Palerme en octobre 2010, ne cédez pas aux tentations de la mafia, un chemin de mort incompatible avec les valeurs de l'Évangile.
Autre condamnation du pape ce dimanche, donc lors de la prière de l'Angélus, le pape a condamné fermement toute forme de torture. 4 jours avant la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture, le pontife a rappelé que cette pratique était un péché mortel et très grave. J'invite les chrétiens à s'engager pour collaborer à l'abolition de la torture et soutenir les victimes et leurs familles, a déclaré le pape. La Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture est organisée, rappelons-le, chaque année, le 26 juin, et cela depuis 1997. Dans la nuit du 26 au 27 juin, à l'occasion de cette journée, les chrétiens du monde entier s'engagent à soutenir par leurs prières ceux qui souffrent aux mains des bourreaux. Ils sont bahreïniens, érythréens, chinois, mexicains ou encore soudanais. Ils ont été battus, violés, torturés, emprisonnés. Pour leur engagement en faveur des droits de l'homme, pour leur engagement politique, pour avoir protégé les plus pauvres, pour le choix de leur orientation sexuelle même, pour les faire taire ou pour les faire parler, on les a torturés. Les chrétiens sont donc appelés à porter toutes ces victimes de torture dans leurs prières, en veillant partout dans le monde dans une nuit où la prière se fait cri et louange, comme l'écrit Lacat. Écoutons Georges Eicheldeck, porte-parole de l'organisation.
C'est déjà en 1997 que l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 26 juin comme journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Et donc, et c'est depuis 2006, c'est-à-dire ça fait, comme vous l'avez dit, la 9e année consécutive que l'ACAT a mis en place la Nuit des Veilleurs. Alors, pour cette Nuit des Veilleurs, l'ACAT, dans son action, met en même temps la prière. Et par conséquent, c'est donc important qu'à la fois elle agisse et elle prie. Et il faut reconnaître que cette Nuit des Veilleurs, dès le départ, a eu un grand succès auprès des adhérents, mais aussi auprès d'autres personnes, et actuellement c'est devenu une des actions phares de l'ACAT. Au départ, c'est une initiative de l'ACAT France, mais depuis ça a été relayé par la FIACAT, Fédération internationale des ACAT, qui regroupe à peu près une trentaine de pays. Bon, il faut reconnaître que c'est essentiellement en France, mais il y a toute une série d'autres pays qui y sont associés.
Alors cette année, si j'ai bien compris, différentes causes ont été mises en avant, notamment le cas de cette Soudanaise, Meriam Ishag, qui a donc été condamnée à mort pour apostasie. Elle vient d'être libérée ce lundi, la preuve que la mobilisation ça paye, mais elle n'est pas la seule cause pour laquelle prier, je suppose.
Oui, alors il y a des bonnes nouvelles. Il s'avère que ce cas-là a été particulièrement médiatisé. Et tout récemment, nous avons eu l'appui du CCF, justement, pour inciter à signer un appel pour que, justement, cette femme qui a été condamnée à mort, tout simplement, parce qu'elle n'a pas renoncé à sa spécificité d'être chrétienne. Et donc, nous avons été soutenus par le CCF. Mais il y a en tout 10 autres cas pour lesquels on envisage de prier. Bien que l'ACAT soit une association chrétienne, elle défend tout le monde. Quelle que soit la couleur, quel que soit l'engagement politique, donc l'ACAT défend tout le monde. Mais vous avez des gens du monde entier. Nous avons donc parlé là du Soudan, mais il y a aussi le Bénin, la Colombie, l'Iran, le Japon, la Russie, l'Indonésie, Israël, Mexique, etc.
Dans le cas de la Russie, la personne pour laquelle prier, qui est-elle et qu'a-t-elle fait?
La personne pour la Russie, c'est une personne qui a été internée, un internement psychiatrique pour un opposant. Il s'agit de Mikhaïl Kosenko.
Est-ce que d'autres cas de prisonniers politiques sont parmi les 10 personnes?
Oui, au Japon. Là, vous avez quelqu'un qui est dans le couloir de la mort depuis 40 ans. Il avait soutenu la défense des droits de l'homme. Quand on dit opposition politique, souvent, ce sont des situations de gens qui dénoncent la manière dont les gouvernements se comportent, donc en matière de droits de l'homme.
Que voudriez-vous ajouter pour inciter les gens à se joindre à cette nuit des veilleurs de jeudi à vendredi?
Ce que nous souhaitons, c'est de conscientiser le maximum de personnes, bien évidemment d'abord les chrétiens, mais toute autre personne de bonne volonté, que notamment celles qui ont faim et soif de justice, puisque notre thème, c'est avoir faim et soif de justice, et aussi, notamment au niveau des chrétiens, de leur faire comprendre que la diaconie est tout aussi importante que le cultuel, c'est-à-dire que l'engagement contre la torture fait partie intégrante de l'engagement du chrétien.
Et les chrétiens de Malaisie ne pourront pas utiliser le mot Allah pour désigner Dieu. La Haute Cour de justice du pays a rendu lundi un arrêt en ce sens, mettant fin à une bataille juridique qui dure depuis plusieurs années. La langue malaise utilise le terme Allah emprunté à l'arabe pour dire Dieu. Les chrétiens comme les musulmans l'utilisent donc couramment dans la vie de tous les jours. Or, en 2007, une directive du ministère malaisien de l'Intérieur avait révoqué le droit accordé à un journal catholique local, The Herald, de l'utiliser dans ses pages. Depuis, les tensions avec la communauté musulmane étaient régulières. Cette décision devrait donc aider à y voir plus clair. Xavier Sartre.
C'est la fin d'un feuilleton juridique vieux de 7 ans. Le Herald, soutenu par toute la communauté chrétienne de Malaisie, a tenté de révoquer la directive du ministère de l'Intérieur qui lui interdisait d'écrire Allah, l'obligeant de fait à dire Dieu. En première instance, en 2009, le journal avait gagné, mais en appel, il avait perdu. La Haute Cour a estimé qu'elle n'avait pas à s'ingérer dans la décision rendue en appel. Amertume, certes, du côté du rédacteur en chef, le père Lawrence Andrews, mais pas de résignation.
That's where everything ends. That's why some people will say the case ends here, you know.
C'est à la Cour fédérale que tout finit, c'est pourquoi certaines personnes diront que le dossier finit là. Mais il y a une disposition qui permet de réviser cet arrêt et c'est ce que nous allons voir une fois que nous aurons le contenu écrit du jugement. Il y a donc une possibilité pour qu'ils puissent réviser le jugement des juges.
Car cette interdiction d'utiliser Allah ne concerne pas que les chrétiens, mais toutes les autres confessions religieuses. Des confessions qui, jusqu'alors, utilisaient sans problème particulier le mot Allah pour désigner leur Dieu ou leur divinité. L'affaire n'est donc pas encore close.
Plus près de nous, l'Église catholique en Pologne s'est officiellement excusée samedi pour les abus sexuels commis par des prêtres. Monseigneur Piotr Libera, évêque de Płock, dans le centre de la Pologne, a émis la demande de pardon au nom des prélats du pays lors d'une cérémonie pénitentielle spéciale à Cracovie. Monseigneur Libera a indiqué dans son homélie la célébration à laquelle participait également le cardinal Stanislas Dziwisz entendait exprimer la profonde compassion et la solidarité de l'Église envers les victimes d'abus. L'évêque de Płock a également critiqué le fait qu'une partie de l'Église n'ait pas pris ses affaires au sérieux. La cérémonie pénitentielle se déroulait dans le cadre d'une conférence de deux jours consacrée au problème des abus sexuels sur mineurs dans l'Église à l'université jésuite Saint-Ignace de Cracovie. À Strasbourg, du 19 au 22 juin, les secrétaires généraux des conférences épiscopales d'Europe s'étaient réunis. Parmi les temps forts, une messe pour l'Europe célébrée dans la cathédrale de la ville dimanche matin et vendredi, les participants ont pu visiter les locaux du Conseil de l'Europe et rencontrer des responsables européens ainsi que les ambassadeurs des pays accrédités auprès de cette institution qui regroupe 47 États. Les secrétaires généraux ont pu échanger sur les situations difficiles en Ukraine et en Bosnie ainsi que sur le malaise que semble traverser l'ensemble du continent européen actuellement. Le père Michel Remery, vice-secrétaire général du CCE, Conseil des conférences épiscopales d'Europe, salue l'intérêt des responsables du Conseil de l'Europe pour l'action de l'Église. Il estime par ailleurs que l'Europe porte en elle ses propres germes de renouveau spirituel. Nous l'écoutons.
On a eu des rencontres, des échanges très différents. On a parlé avec des catholiques dans le Conseil, on a parlé avec des représentants qui ont un autre background, mais qui sont intéressés dans l'Église simplement parce que nous, on travaille sur beaucoup de thèmes. Peut-être sur les thèmes éthiques, on n'est pas du tout d'accord avec certaines impositions. Par contre, il y a beaucoup de thèmes au niveau social, par exemple, qui sont parallèles pour le Conseil d'Europe et pour les évêques d'Europe.
Quels sont les thèmes précis que vous avez abordés durant cette réunion à Strasbourg ?
Ce qui est sorti souvent, c'était la possibilité de nos délégations de parler ouvertement de ce qui se passe dans leur pays. Parce que l'Europe en soi, ça consiste des pays différents. Nous, on avait les représentants de presque tous les pays, et surtout celle de l'Ukraine a pu raconter un peu la situation du point de vue de l'Église catholique, du point de vue de nos confrères qui sont en Ukraine. Et ça, c'était très important pour l'Ukraine, mais aussi pour le Conseil d'Europe d'entendre notre voix. Le Conseil d'Europe entend surtout la voix des gouvernements, et c'est important d'avoir aussi l'autre voix, celle de l'Église. La même chose pour la Bosnie-Herzégovine. On a parlé de la situation là-bas aussi, une situation qui n'est pas résolue. On a été content de voir le Conseil d'Europe. On est bien conscient de la situation, aussi de la situation des chrétiens, mais en même temps, on voit une certaine importance de changer la situation. Là, il faut continuer à prier, à chercher des solutions au niveau de l'Église, mais aussi au niveau des gouvernements de l'Europe.
On a l'impression que l'ensemble du continent européen est dans une sorte de blues un peu. Il y a souvent une démographie très faible. Les situations sont assez variables selon les pays, mais est-ce que les différentes conférences épiscopales sont unies dans cette préoccupation qu'exprime souvent le pape aussi à Rome, d'une Europe qui a un peu perdu son identité, sa cohésion? Il y a aussi des mouvements séparatistes dans beaucoup de pays. Comment les différentes conférences épiscopales collaborent-elles? Comment échangent-elles sur ces sujets?
On a une session avec des représentants des autres continents. Et le représentant de Océanie, il a dit exactement ça. Il a dit que l'Europe, c'est un continent ancien, un continent très vieux et fatigué. On s'est réalisé, mais c'est vrai ça. Il y a une certaine fatigue qu'on voit. Il faut trouver une manière pour sortir de cette fatigue et de retrouver la joie de l'Évangile, la joie simple et en même temps très profonde d'être des chrétiens. En même temps, on a vu aussi des exemples d'espoir. On voit que c'est possible de trouver des manières de vraiment porter l'Évangile partout en Europe.
Justement, est-ce que des expériences menées dans certains pays ont pu être échangées? Est-ce que vous pouvez donner un exemple ou deux de choses qui montrent que l'Europe n'a pas totalement perdu son sens spirituel?
Entre les secrétaires généraux de l'Europe, l'atmosphère n'était pas une atmosphère de deuil en disant que c'est fini avec l'Europe. Non, non, il y a beaucoup d'espoir et on voit des possibilités. En même temps, on voit qu'il y a si beaucoup de travail qu'il faut se mettre au travail. Et pour cela, on a besoin l'un et l'autre. On a besoin d'échanger, on a besoin de soutien. On a parlé avec, par exemple, le représentant de l'Albanie qui a raconté que c'était très important pour lui, pour toute l'Albanie, que le pape va venir. Il a raconté que c'est quelque chose de l'histoire, de la situation maintenant. Ce qui est bon, on voit en Albanie, même si l'église est très petite, même si l'histoire c'était très difficile, maintenant on a des petits signes d'espoir. On voit des jeunes dans l'église, on voit qu'il y a une grande attente de la part de l'église, de la part de la religion en général. Ce qui, il y a 20 ans, c'était impossible et impensable, parce que c'était un état sans religion, sans foi. Donc on voit des signes très importants et en même temps on voit aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire.
Et les secrétaires généraux se sont exprimés à la suite des élections européennes qui ont porté à une progression des partis extrémistes. L'Église, sans entrer dans le débat politique proprement dit et sans oublier que sa mission est de porter la lumière du Christ et le salut à tous les hommes, est convaincue que seule une politique basée sur les principes du respect de la personne humaine, du bien commun, de la solidarité, de la subsidiarité pourra être créatrice d'une société juste, pacifique et féconde, écrivent-ils dans leur communiqué final. Ne pas juger les autres sous peine d'être jugé soi-même, voilà l'enseignement du pape François délivré lors de son homélie ce lundi matin en la chapelle Sainte-Marthe au Vatican. Quelqu'un qui juge est un usurpateur car Dieu est l'unique juge. Qui juge un frère se trompe et finira par être jugé de la même façon et finira victime du même manque de miséricorde. Compte rendu de Jean-Baptiste Cocagne.
Prenant appui sur le sermon sur la montagne, où Jésus dénonce l'hypocrisie de celui qui veut enlever la paille dans l'œil de son frère alors qu'il a lui-même une poutre dans l'œil, le pape François a estimé que celui qui juge se trompe, s'embrouille l'esprit et va vers une défaite. Juger l'autre vient à confondre la réalité selon lui. Celui qui juge est si obsédé par celui qu'il veut juger que cette paille ne le laisse pas dormir. Il oublie sa poutre et confond paille et poutre. Celui qui juge finit mal, car prendre la place de Dieu revient à parier sur une défaite, celle d'être jugé de la même façon qu'on a jugé, selon le pape. Il ajoute que Dieu prend du temps pour juger, alors que celui qui juge le fait immédiatement. Seul Dieu juge, ajoute François, et ceux à qui Dieu donne l'autorité de le faire. Jésus est un exemple à suivre pour le pape. Devant Dieu, il n'accuse jamais, au contraire, il défend, c'est le premier paraclet. Ensuite arrive le deuxième, l'Esprit Saint. Et l'accusateur, c'est le démon, Satan. Oui, Jésus jugera, dit le pape, mais à la fin du monde. Entre-temps, il intercède, il défend, détaille François. Celui qui est jugé pourra toujours compter sur la défense de Jésus, par ailleurs, son premier défenseur, son premier avocat. En somme, selon le pape, celui qui juge imite le principe de ce monde, qui va toujours derrière les gens pour les accuser devant le Père, alors que le Seigneur nous donne la grâce d'imiter Jésus et pas d'imiter l'autre qui nous détruira au bout du compte. Plus qu'un accusateur, le pape François conseille d'être un défenseur des autres devant Dieu. Si je vois une mauvaise chose chez un autre, je vais me taire, aller prier et le défendre devant le Père, comme le fait Jésus. Prier pour lui, mais ne pas le juger. Il faut bien se souvenir de cela quand vient l'envie de juger les autres, a conclu François.
Et restons au Vatican, où le pape a reçu ce lundi matin en audience Enzo Bianchi, le prieur du monastère de Bozé en Italie, mais aussi Horst Schöffer, ministre-président de l'État de Bavière, Mgr Mwachukwu, nonce apostolique au Nicaragua, Mgr Ricardo Vázquez Pérez, l'archevêque de Valladolid, président de la conférence épiscopale espagnole, ainsi que Mgr Vincenzo Paglia, président du conseil pontifical pour la famille. Ainsi prend fin ce magazine. Vous pouvez nous retrouver sur www.radiovaticana.va et sur Facebook à Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, où que vous soyez.